France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De bouche à oreille, par René Elkaïm Bollinger. Comment cuisiner ses racines, Bazar Maillard, avec la participation de Viviane Chocas, à la recherche de ses racines hongroises à travers la cuisine. Tessek, Tessek, dans la voix de la mer et la chaleur des nourritures, c'est la plénitude d'une voix qui renoue avec une langue maternelle non apprise, mais retrouvée quelque peu grâce aux mots de la nourriture. Parfois, il suffirait de manger pour que tout ou presque puisse être dit. En effet, si bien des ruptures de transmission ont lieu entre générations, la cuisine, elle, demeure, sauvant peut-être ce qui demande obstinément sa part, les racines. Avec Viviane Chocas, dont on recherchera le livre, paru chez Héloïse d'Ormesson, Bazar Maillard, en 2007.
Maman, j'ai faim.
On mange quand ?
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire. Aujourd'hui, comment cuisiner ses racines, deuxième volet, Bazar Maghiar.
Mange encore un peu.
Megetzer, pourquoi non, ça n'est pas bon, tu n'aimes pas? Clara, n'aime tetszik neked. Ça ne lui plaît pas, Peter, elle n'aime pas ça. Jézus Maria, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? De la carpe farcie, du foie d'oie aux champignons? Un poulet au paprika, du roulé au pavot, des boulettes de prunes, de la purée de châtaigne? Si, tu aimes? Alors tiens, prends ma belle, prends ma chérie, mon cœur d'or, serre-toi un peu plus, un peu mieux, t'es chic, t'es chic.
T'es chic, t'es chic. On entend encore la voix de Viviane Chocas lisant un passage de son livre « Bazar Maghiar ». Elle nous offre une cuillerée de texte. Une cuillerée de texte, c'était le titre d'un beau livre de Michel Butor paru il y a quelques années. Eh bien, dans Bazar Maghiar, on mange le texte à la petite cuillère et parfois on le croque à belles dents. Teshek, Teshek, c'est la plénitude d'une voix qui renoue avec une langue maternelle apprise de toute pièce. La langue, la mémoire, l'enfance et le goût. Parfois, il suffit de manger pour que tout ou presque puisse être dit, remarque Clara, l'héroïne de Bazar Maghiar. Grâce aux plats et aux odeurs, à ces saveurs déglutis et remâchées jusque dans mes rêves les plus sourds, j'ai pu envisager les lettres, les mots hongrois, l'étoffe de la langue, puis les visages. Une certaine géographie de l'Europe centrale. Au-delà de la sensualité des parfums, des goûts et des textures, Viviane Chocas soulève des questions essentielles. Comment rendre sensible l'étrangeté d'une langue? Qu'y a-t-il dans la langue? Que cache-t-elle? Que vous prend-elle? Avec ses accents graves au goût de noix ou ses accents aigus à l'amertume du concombre? Cuisiner ses racines, c'est peut-être aussi savourer une langue inconnue. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, Teshek. Entretien avec Viviane Chocas, journaliste, auteur de Bazar Maghiar. Comment les goûtez-vous, les galouchkas? Brève et micro-ondes. Juste un mot, Teshek.
Tashik, tashik, c'est vraiment un mot un peu mystérieux et complètement magique pour moi. Littéralement, tashik, c'est une façon de dire voilà, s'il te plaît, merci en même temps. C'est un mot de présentation, c'est un mot d'offrande. On peut vous dire tashik pour vous donner une place dans le bus, comme on peut vous dire tashik, tashik pour vous offrir trois rondelles de salami. C'est un mot que je trouve, moi, complètement irrésistible, parce que je l'ai entendu sans le maîtriser, sans le comprendre, de la part notamment de cette charcutière hongroise qui existait effectivement à Paris dans les années 70. C'est un mot de bienvenue, voilà. Tashik, c'est un mot de femme. C'est un mot de femme, de toutes ces femmes qui, là encore, sans que je les comprenne nettement, m'accueillaient en Hongrie quand j'étais petite. Les sœurs de ma grand-mère, de lointaines tantes, des bonnes qui avaient vu mes parents lors de leur enfance. Et c'est une façon de vous faire entrer, de vous faire asseoir, de vous faire sourire, de se présenter et de vous nourrir. C'est-à-dire que quand une femme vous offre à manger en Hongrie, c'est ça aussi. Tashik, tashik. C'est un peu insistant, ça relève de l'offrande comme de la plainte. C'est un peu un gavage, ça se répète, vous voyez, je n'arrive pas à le dire une seule fois. Tashik, tashik.
La conversation s'engageait et je n'y comprenais rien. Gyo, tchak, jzem, tok. Entre les lèvres de la patronne se précipitaient des voyelles lourdes, corsetées d'associations imprononçables et jetées d'une bouche gonflée comme le pavillon d'un corps de chasse. Oh, oh, ou. Des basses m'attaquaient au ventre, bousculées par des déversements de R, enrobant la parole, la bardant de ses rubans pourpres et gras. Tout en vociférant de la sorte, Madame Chouba choisissait une saucisse fine pour trancher sur une plaque de bois des rondelles impeccables qu'elle nous proposait tandis que sa voix enflait, festive, s'emballait, se retournait avec le léger crépitement d'une comptine. « Téchèque, téchèque !» me répétait-elle jusqu'à ce que la rondelle fonde enfin sur ma langue. Les syllabes dévalaient sur son comptoir de cuisine sans épargne, graves et aiguës, cohabitant dans la hâte, sucré et salé dans la même pâte, et encore une rasade de jus de voyelles brûlantes, alors qu'un peu de mousse blanche apparaissait au pli de jonction de ses lèvres. Viviane Chocas, Bazar Magyar.
Alors il y a plusieurs choses, peut-être. Peut-être il y a d'abord cette langue qui résonne comme nulle autre pareille. C'est-à-dire que c'est une langue, on se plaît à dire qu'elle est d'origine inconnue, qu'elle ressemble vaguement au finnois ou au basque. Il n'empêche que moi j'entends toujours « Ah, vous parlez un peu le hongrois, ah, vos parents sont hongrois, mais quelle langue difficile !» C'est une langue qui vient d'ailleurs, c'est une langue qui étonne. Donc ce sont des mots qui en bouche résonnent d'une manière particulière. Alors peut-être on peut dire ça toutes les langues, sauf que ça vient d'Europe et que sur ce continent-là, très peu de gens la maîtrisent. Bah, y a 10 millions de hongrois, c'est pas beaucoup. Voilà, donc je mange les mots, peut-être je mange le hongrois d'abord parce qu'il y a une résonance ronde avec une accumulation de voyelles, de trémas, qui peuvent être des points, qui peuvent être des accents. C'est d'abord une langue que moi-même en bouche, je ne possédais pas du tout, quoi. En tout cas, l'époque où se situe l'héroïne dans le roman que j'ai écrit... Elle est assez jeune et dans cette épicerie où elle va accompagnée de son père, elle ne comprend rien à la langue ou peu de choses. Mais effectivement, tandis qu'elle parle, la charcutière coupe des tranches de saucisses et tout ça se mélange volontiers. Il y a tout de suite une langue qui a des saveurs, qui a une sorte d'épaisseur en bouche qu'elle ne peut pas bien articuler, elle, l'héroïne, alors elle les mâche, elle les broie sous la dent. Voilà, ça commence comme ça.
C'est une écoute gustative, en quelque sorte.
D'abord, c'est la seule écoute possible. C'est-à-dire que la nourriture, elle adoucit un peu la douleur de ne pas comprendre la langue. Ah, je ne peux pas t'articuler, ben au moins je peux te manger. Au moins j'ai ça. Ma mère ne me parle pas hongrois, mais au moins elle m'en donne à manger. Donc, au moins on partage ça.
Tousser dans la poudre du pavot, mouiller les lèvres le long de la liqueur âpre de la poire, casser l'os de cuisse du poulet pané m'était autorisé, parce que les plats revêtaient une croûte placide. Pourtant, j'y ai vite découvert un cœur férocement dense, quelque chose de régénérant, qui pouvait m'être communiqué depuis le ventre des origines. Viviane Chocas, Bazar Magyar.
Je suis donc née d'une famille ou d'un couple d'émigrés hongrois qui sont venus à Paris en 1956, qui ne me parlaient pas le hongrois, qui ne le parlaient pas entre eux, qui ne le parlaient même pas avec ma grand-mère quand elle-même est venue en France. C'est-à-dire que le hongrois était une langue bannie, un temps durant une langue honnie. Et je n'entendais, je n'entendais pas cette langue à la maison. Mais ma mère servait de temps en temps, et notamment le dimanche, un plat qui manifestement venait d'ailleurs, manifestement venait de là-bas. C'était pas dit comme ça, mais c'était à la gourmandise déjà que manifestaient mes parents, c'était assez évident. Ouais.
Et vous vous souvenez de ce plat ?
Alors, pour moi le premier, il y a le poulet pané que vous venez d'évoquer, son crépitement, des morceaux tout petits qu'on mange au doigt. C'est vrai que tout de suite, je me dis, il n'y a même pas d'ustensile, voyez-vous, c'est des choses qu'on mange, des morceaux comme ça, qu'on croque vraiment un peu avec voracité sous la dent. Et puis, il y avait un autre plat qui s'appelle le rokot krumpli, dont je parle à un moment dans le livre, qui est un plat paysan absolument sublime, absolument pas sophistiqué. Ce sont des couches de pommes de terre. Ensuite, rondelles d'œufs durs, jaunes et blancs, bonne épaisseur de crème fraîche, rondelles de saucisse hongroise fumée, et puis on remet la patate, la crème fraîche, les œufs, la saucisse, une fois, deux fois, trois fois le même jeu, et puis on saupoudre ça de chapelure, de paprika, on met au four. C'est absolument divin, c'est extrêmement frustre, mais absolument délicieux.
Je mangeais avec application, exactement comme on arpente les premiers mots d'une dictée. Les mets composaient la seule mémoire vive cédée, concédée, transmise, voyelle paprika, consonne galouchka, accent grave dans la chair de la noix, aigu dans l'amertume du concombre. Ils ont creusé mon premier attachement à la langue de là-bas, un déchiffrage à jamais collé au sens qui me hante et m'accompagne de son pouvoir d'éveil. Grâce aux plats et aux odeurs, à ces saveurs déglutis et remâchées jusque dans mes rêves les plus sourds, au fil des années, j'ai pu envisager les lettres, les groupes de lettres, les mots hongrois, l'étoffe de la langue, puis les visages, les corps et le choc des ressemblances, la rencontre d'une famille, d'une certaine géographie de l'Europe centrale, enfin. Viviane Chocas, Bazar Magyar.
Alors, qu'est-ce que c'est une voyelle paprika et une consonne galouchka?
Ah, c'est le plaisir un peu de la langue, là, je me suis laissée aller.
Faites-nous entendre.
Il y a beaucoup de O, O, U, U, de voyelles comme ça fermées, un galouchka. Peu lourdes en hongrois. Les galouchka, là encore, finalement, ce sont des choses très simples. Les galouchka, ce sont des petites pâtes. Les Italiens appellent ça des gnocchi. Hein, et c'est simplement de la farine, de l'eau, du sel, un peu d'œuf. Et puis on jette avec une petite cuillère adaptée, les boulettes dans l'eau. Et puis on les agrémente d'un petit veau tourné dans le paprika et les oignons, de mille choses, encore de morceaux de poulet. Voilà. Les galouchka, c'est le plat. Mais finalement, je parle souvent dans ce bouquin de choses très simples, sans doute parce que ce sont aussi les mets et la cuisine des mères, des grands-mères, enfin des dames de la maison.
Vous évoquez, alors il y a le goût, il y a les saveurs, il y a la langue qu'on parle, la langue qui goûte aussi,
ouais.
Et puis il y a la mémoire, et puis il y a l'histoire, et l'histoire avec un grand H. Mmh. Est-ce que vous allez retrouver à plusieurs reprises Budapest, une première fois quand vous allez à un enterrement, vous allez déguster...
À l'enterrement de la grand-mère, à 11 ans.
Vous allez déguster donc quelque chose qui a un rapport avec cet enterrement. Mm-hmm. Et puis une autre fois, vous y allez en vacances et vous découvrez la rougeur à la fois du paprika et de l'amour, enfin de la sexualité.
Ouais.
Et puis une troisième fois comme journaliste.
Ouais. Ouais.
Donc ça vous fait trois itinéraires vers cette ville, mais qui sont très différents, mais qui s'inscrivent dans l'histoire.
Oui, oui, et avec une dominante rouge, vous avez raison de le dire comme ça. Alors, vous me dites, vous, il y a quand même une héroïne dans cette affaire-là.
C'est pas vous.
C'est pas tout à fait moi.
Comment elle s'appelle,
d'ailleurs ? C'est-à-dire qu'elle s'appelle Clara. Bien sûr, je suis partie d'un terreau personnel. Voilà, je l'ai dit, je suis fille d'immigrés hongrois. Ils ne m'ont pas appris la langue, j'ai été l'apprendre en cachette à l'adolescence. Je suis journaliste. Voilà pour les points qui me rapprochent de très très près de mon héroïne. Et puis bon, après, heureusement, il y a les langues, il y a la magie des mots et des moments où on écrit, puis le roman qui fait jour. Mais il y a ces trois moments de rouge, vous avez raison. Alors, je me suis rendu compte qu'en hongrois comme en français, le mot langue, en hongrois c'est nyelv, N-Y-E-L-V, Nyelv, c'est à la fois la langue que l'on parle et puis l'organe qu'on a dans la bouche. C'est amusant parce que c'est pas vrai en anglais, par exemple. Donc il y a vraiment cette histoire-là, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne possède pas les mots hongrois et qui commence par les broyer sous la dent, par en faire dégorger les sucs pour qu'elle parvienne à les articuler. Elle découvre le hongrois et la Hongrie, à 11 ans, lors d'un enterrement. Et comme souvent dans les enterrements, on y va avec beaucoup de tristesse. Et puis il y a un moment où on se retrouve autour d'une table et où on commence à manger, toutes les générations se mélangent, et puis c'est plus triste du tout. Alors elle découvre d'abord la langue à travers des beignets d'abricots, des farsangifang, ça aussi c'est un plat de maison, c'est un plat de grand-mère, là encore. Ce sont des petits beignets fourrés aux abricots, bien dégoulinants, bien mous sous la dent, bien sucrés. C'est une langue qui a ça, qui a cette espèce de forfanterie. Ça colle un peu, oui, comme ces beignets d'abricots. Et les Hongrois sont un peu comme ça, enfin en tout cas sous les yeux de cette petite fille, un peu aguicheur, voilà. Un peu gourmand et aguicheur. Et puis ensuite, la langue, on n'a pas encore passé l'étape de 89. Donc il y a aussi, il faut se rendre compte que dans la Hongrie des années 70, on voulait plaire à l'Ouest, on voulait plaire à la France, parce que c'était une terre rêvée. Et je crois que je le ressentais même dans la langue et dans la nourriture et dans la façon qu'on en avait de me faire manger. Voilà.
Ça me prend en ventre. Je mange rouge et au-dessus du pubis, je sens mes veines, ma peau, mes muscles qui se resserrent en bourse. Mon vagin palpite, quelque chose se creuse. Je mange rouge et je ne peux empêcher mes paupières de se fermer sur ces bouchées pesantes quand les graisses s'étiolent en quelques tours de langue pour laisser ronronner la saveur du fruit, de la farine et du sein doux. Je mange rouge et ce sont les syllabes, les mots que je broie. Je les tords, je les masse, je les mâche et je les macère. Je les étouffe et je les libère. Je mange rouge et je n'ai plus à parler, à guetter les signes et les vocables, leur transparence. Je mange rouge et je ne suis plus qu'une langue orange, râpeuse, une langue fine, déliée, amoureuse, une langue chantante et doucereuse, une langue vivante. Et déjà, tout mon palais se couvre de poudre rouge. Viviane Chocas.
Oui, elle va rencontrer ce Hongrois, il se balade dans la ville, et lui il est assez malin, donc il a assez vite compris que s'il l'entraînait dans une charcuterie, dans une boucherie, dans un restaurant, il y avait dans ses yeux peut-être quelque chose, une lumière, une envie, voilà, qu'elle réagissait assez bien à ce moment-là, et en même temps, c'est très naturel à Budapest. On se balade dans les rues, on s'assied assez vite pour boire un petit coup et manger quelque chose. Hein. Donc, ils se promènent ensemble. Et elle a cette envie, voilà, on en a parlé à l'instant, ancrée au ventre. C'est-à-dire qu'elle, oui, elle a envie de mordre cette chair hongroise. Et ils vont finalement, l'un comme l'autre, aller jusque leur désir, c'est-à-dire se découvrir, avoir une nuit ensemble, une nuit pas très intéressante pour elle, une nuit un peu décevante. Et au petit matin, elle se réveille, notre Clara, et elle voudrait s'échapper de cette maison de ce jeune homme qui est devenue presque un peu malsaine, et surgit alors la mère du jeune homme qui lui a préparé pour son réveil des choux farcis. C'est une feuille de chou un peu épaisse qui cache en son intérieur une espèce de viande tamisée au riz avec des herbes, avec quelquefois des petits champignons, avec des oignons. Tout ça servi avec une sauce aigre-douce et un petit peu de crème aigre blanche, bien arrosée. Voilà ce qu'il attend pour le petit déjeuner.
Vous dites le chou, ça cache.
Le chou, oui, mais parce que tout à coup, je vois ces feuilles de chou qui se soulèvent et renferment en leur cœur quelque chose de différent, de la viande, quelque chose de plus mystérieux, un mélange comme ça d'épices, un peu sucré-salé. Voilà, et c'est là encore, c'est un plat paysan, c'est un plat qu'on trouve pas dans les restos chics de Budapest, mais qu'on trouve dans les petits bistrots, qu'on trouve à la campagne beaucoup. C'est un plat d'hiver, c'est un plat qui tient chaud au corps. Vous voyez comme c'est étrange aussi, je le découvre en vous parlant, combien j'ai eu besoin pour écrire de plats qui tiennent chaud au corps, quoi. C'est-à-dire que cette recherche de la langue hongroise, cette recherche de mon histoire hongroise, ben elle s'appelle... Voilà, elle a eu besoin, pour que la langue avance un peu, de s'appuyer sur des plats extrêmement rassurants, solides.
Et comme dit Paul, qui est le jeune homme, seul le chou farci est meilleur réchauffé.
Ouais. Seul le chou farci est meilleur réchauffé, ça c'est un proverbe hongrois. Et elle découvre ça... Elle découvre ça sur un petit mot, donc une fois qu'elle est rentrée à Paris, Clara découvre le petit mot de cet amant, voilà, qui comprend très bien que leur nuit ne donnera pas lieu à une grande histoire d'amour. Mais que le chou farci, lui, oui, on peut le réchauffer.
Alors, chacun des chapitres correspond à, disons, à un plat,
ouais,
ou à
presque.
Une nourriture, hein, presque.
Mm-mm.
Alors, les beignets d'abricots.
Les beignets d'abricots, farshangi funk. Le biscuit roulé, begli.
Le chou farci.
Le chou farci, tulte de kaposta. La brosse à dents, fog kefe. Le salami et le tokai, salami et tokai. Les galushka, galushka. Bazar magyar, magyar bazar. Le vin blanc, feherbor. Mélimélo de crêpes et noix, le rocot polochinta.
Alors, il y a une évolution, hein, dans tout ça, finalement. Il y a une dramatisation,
oui,
de tous ces plats. Il y a quelque chose que vous dites au début, d'ailleurs, du livre, que je trouve intéressant. Et c'est quand vous dites « On n'a jamais vu un régime politique renverser une cuisine nationale.
Ouais, » ouais. Mais une dictature ne renverse pas une cuisine nationale. Une dictature renverse beaucoup de choses, renverse la liberté de dire, souvent, la liberté de parler à voix haute. Quelquefois, elle va jusqu'à brider celle de penser, mais des dictatures qui renversent une cuisine nationale, qui empêchent les femmes de cuisiner à leur façon, avec leurs petits messages personnels glissés dans la nourriture, ça ne se fait pas, ça ne s'est pas vu, je pense. La cuisine nationale, ça résiste à la dictature, quelle qu'elle soit.
Chouza, se peut-il qu'il fût réduit à cela, ton bazar magyar à toi ? Juste une brosse à dents en poche pour rincer ta bouche ? Lui permettre à nouveau de manger frais, de parler propre, de sourire franc ? Une brosse à dents pour te laver le souffle ? Un petit ustensile de rien du tout qui affûte et éclaire ton appétit de femme volontaire, lumineuse et tellement optimiste ? D'une frontière à l'autre, une brosse à dents se chargea de laver les mots hongrois en ton palais, de les réduire en eau, en bulles, en rien, pour dérouler devant les mots français un long tapis vierge, leur offrir un accueil net, flambant neuf, impérial, pour leur laisser un temps, au moins, toute la place. Viviane Chocas, bazar magyar.
Et la brosse à dents, elle nettoie les nourritures et aussi la langue, c'est-à-dire ouais. qu'elle enlève tout, quoi.
Alors ça, c'est un instrument délicat, c'est-à-dire que ça, c'est une histoire vraie. Ma mère m'a toujours dit qu'elle était venue en France avec juste une brosse à dents dans sa poche. Et finalement, je me suis aperçue que c'est vrai d'un certain nombre de gens émigrés qui n'ont pas la chance de partir avec des valises, qui partent dans des conditions très difficiles. Et il y a comme une, je sais pas comment, une propreté, une hygiène de soi qu'on transporte quand même. Vous voyez, un outil du quotidien, un outil extrêmement intime, c'est tout petit, une brosse à dents. Et moi, j'ai imaginé que ça servait aussi à la mère de l'héroïne, ça lui servait de laver son passé, de laver tout ce qui lui collait aux dents, de laver presque la trace de sa maison familiale, de sa mère. C'est cruel, cette brosse à dents. Dans un premier temps, il s'agit d'élaguer le passé, d'en faire table rase. Et puis ensuite, d'arriver en France avec le palais clair pour incurgiter une autre langue.
Alors, dans le chapitre intitulé « Les Galouchkas », c'est ce qui arrive justement à l'héroïne, c'est quelque chose de très émouvant, parce que sa mère lui demande de faire un voyage avec elle au fond de son enfance, hein, finalement, et c'est avec la recette des Galouchkas.
Alors, la mère lui joue un drôle de tour. Sans s'en rendre compte, elle demande à sa fille de préparer un plat hongrois. C'est-à-dire que la mère a retrouvé un ancien amoureux qu'elle a eu dans sa jeunesse, un ancien amoureux lui-même né en Hongrie mais qui dans le livre a émigré à Londres, et elle va le présenter à sa fille, à Clara, et tout à coup la mère avec beaucoup de légèreté dit bah tiens, puisque tu sais faire des galouchkas, bah, vas-y, fais-les pour nous, prépare-nous un repas. Et c'est une terreur pour la jeune femme parce que c'est à elle soudain de prendre le relais, c'est à elle de nourrir, c'est à elle d'être cette main nourricière, cette bouche nourricière et de le faire avec quelque chose qui lui échappe, c'est-à-dire ce peu de hongrois, ce peu de Hongrie qu'elle détient. Voilà, donc dans un premier temps, c'est la vraie panique. Et après pas mal de panique, elle va effectivement présenter ses galouchkas, ses petites pâtes granuleuses et simples et délicieuses à sa mère, à l'ami de sa mère, et espérer d'eux une sorte d'acquiescement, de reconnaissance.
Alors la reconnaissance, c'est important parce que derrière cette reconnaissance, il va y avoir des révélations.
Ouais, d'abord la reconnaissance, c'est aussi le signe de la transmission. Si elle rate pas trop ou si elle réussit à peu près sa recette, c'est qu'elle a compris quelque chose de là-bas, même sans mots. Mais voilà, sans doute parce qu'elle a vu faire quand elle était plus jeune, elle a mangé ça chez des tantes ou des voisines quand elle est allée elle-même se promener ou visiter la Hongrie. Voilà, et si elle sait faire les galouchkas pour sa mère, c'est que quelque chose est passé, c'est que quelque chose s'est transmis.
Oui, mais il n'y a pas seulement la mère, il y a la grand-mère, Ilona.
Ouais, il y a Ilona.
Ilona.
Ouais. Effectivement, il y a un secret de famille qui va aller au-delà des galouchkas et qui est lourd à porter pour tout le monde, qui est une confusion dans les origines de la famille et des femmes de la famille. Voilà.
La nourriture hongroise me porte au bord de la jouissance.
Ouais, c'est l'héroïne qui parle. Moi, en écrivant, c'est pas loin de ça quand même. C'est-à-dire que ce sont... tout à coup, on se rend compte combien les mots ont une épaisseur. Voilà. Et la nourriture hongroise, pour moi, mêlée à l'écriture, tout à coup prennent cette épaisseur-là. Et les mots ont une rondeur, les mots sont parfois liquides, ils ont une chair, exactement, ils ont une chair. Voilà, ils ont une chair, ils ont du mordant, et c'est ça qui est bon.
Finum.
Finum, Nayan Finum.
Comment les goûtez-vous, les galouchkas?
Porter en bouche, sentir la salive qui inonde le palais. Les joues qui se creusent tandis que les dents se rejoignent à peine, mordre délicatement et deviner ce petit pli jailli au-dessus du nez, entre les paupières au moment où celle-ci se ferme en un soupir de délice. Découvrir alors l'alchimie des galouchkas. Quand chaque petite larme issue de cette pâte blanche, farinée, amidonnée comme un linge propre, granuleuse, presque rêche, pure, originelle, se transforme sous le palais en une pépite, un dé d'or hétéroclite et moelleux, riche, onctueux, ni tout à fait collé à la gencive, ni tout à fait délié. Une boule de feu tendre sur la langue, sous la langue, qui initie un roulement des lèvres, des joues, et enflamme progressivement le visage, la gorge, descend jusqu'aux épaules. Viviane Chocas, Bazar Magyar.
Brève et micro-ondes. Bazar Magyar de Viviane Chocas est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le goût de Budapest au Mercure de France. Une cuillerée de textes de Michel Butor et Maxime Godard aux éditions Niesi de Marella. De l'hospitalité de Jacques Derrida et Anne Dufour-Mantel aux éditions Kelman-Lévy. Le yacht de la comtesse Anne-Anne de Peter Esterhazy aux éditions Gallimard. Bouche à oreille, par René Elkaïm-Bollinger. Aujourd'hui, Cuisiner ses racines, deuxième volet, Bazar Magyar. Avec Viviane Chocas, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Anne de Biron, mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Pascal Rayet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 février 2007.